Merci d'écouter France Inter, il est 8h. Soyez les bienvenus, c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour.
Bonjour. Strasbourg et Bruxelles, trop loin de la Méditerranée. L'Europe incapable de répondre à la crise quand les cadavres de migrants s'accumulent sur les plages. Reportage en Tunisie avec notre envoyé spécial. La réforme des retraites, c'est le rapport du haut-commissaire sur la table aujourd'hui avec le Big Bang du régime universel. On ira voir en Suède ce que ça donne au bout de 20 ans. Le système est plus simple mais pas plus égalitaire. Le PS est mort, vive le PS. Réunion hier autour des ex-ténors. Cap sur 2022, c'est ce que nous dira aussi votre invité à 8h20, Frédéric Mettezo.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, la réforme des retraites, le CETA, les suites de la démission de François de Rugy, la réunion des éléphants hier soir au Sénat. C'est au sommaire du grand entretien de la matinale. Vos questions 01 45 24 7000 et franceinter.fr.
Dans l'actualité encore, les algues vertes en Bretagne, le Tour de France dans les Pyrénées et puis la zone 51 en plein désert du Nevada aux États-Unis, un squat d'extraterrestres. La toile s'affole, on mène l'enquête à la fin du journal. France Inter. Faut-il défendre les bateaux d'ONG qui sauvent les migrants en mer Méditerranée? Faut-il fermer les frontières ou plutôt les ouvrir? Deux visions s'affrontent, l'Europe hésite et le débat dure encore et encore à Bruxelles ou à Strasbourg, pas plus tard qu'hier. Il y a les discours, les concepts et puis la réalité, celle qui rattrape la Tunisie aujourd'hui. Ce sont sur ces plages que viennent s'échouer les cadavres de migrants. Naufrage d'un bateau en provenance de Libye le 1er juillet dernier, 83 personnes à bord. À Zarzis, près de Djerba, deux semaines que la ville enterre les corps. Reportage de notre envoyé spécial Rémi Brancato.
Derrière le foyer pour migrants du Croissant Rouge au sud de la ville de Zarzis, un carré de terre clôturé de quatre murs, c'est le nouveau cimetière des morts anonymes.
C'est vraiment trop d'émotion.
Sur une camionnette, neuf corps dans des sacs mortuaires blancs, des employés de la ville les portent en terre, un quatrième enterrement en cinq jours pour Faouzi Kenissi, maire adjoint.
Ces gens-là, ce que vous voyez, ils ne sont pas formés pour enterrer des corps d'abord. Ils ont leur métier à la mairie de Zarzis.
Une pelleteuse recouvre les dépouilles. Ici, 86 migrants noyés ont été retrouvés depuis deux semaines.
Vous avez quoi dans les mains là ?
Ah, ça c'est les pancartes où on va mettre les numéros sur les tombes. On n'a pas le nom, justement, on n'a que des numéros.
Mongislim est le président du Croissant Rouge dans le secteur.
Ça sera indiqué par ce petit morceau de bois, malheureusement. Il va porter une référence au moins pour son ADN. Si jamais il y a une personne qui le réclame, on peut donc faire la comparaison génétique et porter même le corps vers son pays s'il le veut.
C'est la première fois que des prélèvements sont réalisés sur les corps pour tenter de redonner une identité à ces exilés. Plus de 800 sont déjà enterrés dans un premier cimetière plein. Le Croissant Rouge a donc acheté ce nouveau terrain.
Nous avons collecté de l'argent pour le dédier à ces inconnus qui arrivent par la mer. S'il y avait des bateaux de sauvetage, ces gens ne seraient pas là dans un cimetière comme ça.
Et Zarzis redoute un afflux de cadavres sur ces plages cet été.
Le reportage de Rémi Brancato est à écouter en longueur sur notre site franceinter.fr. À propos de bateaux de sauvetage, que devient Carola Racketeux, cette Allemande, capitaine du navire de l'ONG Sea-Watch, qui avait accosté de force à Lampedusa fin juin avec une quarantaine de migrants? Eh bien, Carola Racketeux, accusée par le gouvernement italien d'aide à l'immigration clandestine, est entendue aujourd'hui même par la justice italienne. C'est le procureur qui décidera de la suite.
France Inter, 8h04, après la réforme des ordonnances travail, après la réforme de l'assurance chômage, voici la réforme des retraites.
Autre dossier explosif de gouvernement en gouvernement. C'est la patate chaude. 18 mois de concertation cette fois-ci. Et sur la table aujourd'hui, les recommandations. Celles du haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, remet ses préconisations aux partenaires sociaux ce matin 8h30 et au Premier ministre ensuite à 11h30. Ce qu'on sait déjà, c'est que le futur système universel promis par Emmanuel Macron a été acté. En clair, la fin des régimes spéciaux, la fin aussi des 25 meilleures années de cotisation au profit d'un système par points où chaque jour travaillé sera comptabilisé. Mais quid de l'âge de départ et bien d'autres zones d'ombre, même le chargé du dossier à la CFDT, Frédéric Sève, qui a toujours soutenu la réforme, s'inquiète.
Ce que Jean-Paul Delevoye va présenter, c'est le cahier des charges, hein, le plan de l'architecte pour construire le système de retraite universel. Et les principes qu'il, a priori, devrait poser nous vont très bien. Par contre, ce qu'on dira au gouvernement, c'est mettez en œuvre la réforme dans l'esprit où elle a été posée, de faire surtout quelque chose de plus juste. Et la justice sociale en matière de retraite, ça implique d'avoir un œil sur la pénibilité, d'avoir un œil sur les retraites progressives, d'avoir un souci pour les basses pensions, d'avoir un souci pour l'égalité homme-femme. Voilà, c'est encore une fois, ça n'est pas qu'un sujet technique, cette réforme, ça n'est pas qu'un sujet macroéconomique, c'est d'abord un sujet social.
Frédéric Sève de la CFDT avec Laurent Kramer. La réforme des retraites, dont le calendrier a été repoussé, devrait arriver devant le Parlement l'an prochain, mais surtout pas avant les municipales, pour une application sans doute pas avant 2025. Des retraites au système universel, c'est déjà ce que fait la Suède, pays souvent pris comme modèle. Le pays a bouleversé son régime de retraite il y a maintenant 20 ans. Alors aujourd'hui, avec le recul, Louise Baudet, qu'est-ce que ça donne ?
Obligatoire, universel et sur le papier aussi simple que le montage d'un meuble en kit. Premier étage de la retraite à la suédoise, la pension publique perçue par tous les assurés. Chacun dispose d'un compte individuel où il accumule des droits en cotisant. Le montant touché au moment de la retraite dépendra des points accumulés, mais aussi de l'âge de départ, de l'espérance de vie moyenne et de la conjoncture économique. Deuxième étage, une retraite complémentaire souvent versée par l'entreprise. Et troisième étage, une retraite par capitalisation via l'abondement d'un fonds de pension, chacun pouvant en temps réel consulter sur son ordinateur le nombre de points dont il dispose et le montant correspondant. Système idéal ? Pas vraiment. Le montant des pensions a globalement baissé, 53% du salaire de fin de carrière aujourd'hui contre 60% en 2000. Par ailleurs, l'espérance de vie n'augmente pas pour tout le monde, les cols blancs sont donc favorisés. Enfin, toute la carrière compte désormais et non plus seulement les 15 dernières années d'activité, ce qui pénalise les carrières morcelées.
Louise Baudet. Au sujet des ordonnances travail, c'est un soulagement, une victoire aussi pour le gouvernement. La Cour de cassation a estimé hier que le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif était tout à fait compatible avec les textes internationaux. Un autre caillou dans la chaussure du gouvernement, c'est une nouvelle fois signé Mediapart. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a honoré 9000 policiers pour leur engagement exceptionnel dans le cadre des Gilets jaunes. Le hic, nous dit le site d'investigation, c'est que parmi tous ces gardiens de la paix, aujourd'hui décoré d'une médaille, il y en a 5 qui sont impliqués dans des enquêtes pour violences policières, notamment dans la blessure de Geneviève Leguet à Nice ou encore, et là rien à voir avec les gilets jaunes, dans la disparition du jeune Steve à Nantes le soir de la fête de la musique. On y reviendra dans la revue de presse de France Inter tout à l'heure à 8h45.
France Inter, il est 8h07, la suite du journal Hélène Roussel. Pendant ce temps, petite sauterie au PS, c'était hier soir au Sénat pour fêter la fin de la session parlementaire.
Avec tous les ténors, ou devrait-on dire ex-ténors, mais non, le PS n'est pas mort. C'est bien en tout cas le message qu'a voulu faire passer le patron du groupe au Sénat, Patrick Kanner, quand il réunit François Hollande, Jean-Marc Ayrault ou encore Lionel Jospin lui-même. Ne dites pas réunion d'anciens combattants, mais plutôt rampe de lancement. Objectif Laurence Perron, 2022.
Ne parlez ni d'éléphant ni de rassemblement de poids lourds à Martine Aubry.
Bon, puisque c'est ça, je m'en vais. Je pars faire mon régime et je reviendrai vous voir. C'est tous ensemble qu'on doit apporter notre pierre au renouveau d'une vraie social-démocratie.
La maire de Lille est tellement en verve que l'on en rate l'arrivée à pied sans garde du corps de Lionel Jospin.
Et voilà, je suis rentré discrètement. Je pense, mais je ne m'exprime pas. Pas pour le moment, en tout cas.
À l'intérieur, François Hollande prononce un discours où il affirme que la social-démocratie n'est pas morte et que l'écologisme, comme il l'appelle, n'est pas une martingale politique.
Que la social-démocratie ou le socialisme reste une idée forte.
Le sénateur Jean-Pierre Sueur a beau minimiser l'instant.
C'est un pot de fin de session.
Olivier Faure, le patron du PS, a moins de pudeur de gazelle. François Hollande a enfin décidé de passer la main.
Il a cherché à faire passer le message qu'il y avait aussi un moment où il fallait passer le témoin.
Et qui, pour récupérer le témoin ? L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui se défend toutefois d'avoir été officiellement mise en orbite. Monsieur le Premier ministre, on nous dit que vous êtes peut-être le premier étage de la fusée.
On ne fait pas des politiques avec des fusées. On fait des politiques avec des idées. La fusée, ça relève de l'aérospatiale.
La mise à feu de la fusée Cazeneuve est pourtant bien planifiée. Ce devrait être début septembre, lors des journées des parlementaires socialistes.
Et avant, il y aura aussi un événement. Les universités d'été du PS, après 3 ans d'absence, le grand retour à La Rochelle du 23 au 25 août. On en reparle tout à l'heure donc avec votre invité Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Mmh. Alors que revoilà la canicule, Météo France ne sait pas encore combien de temps cette vague de chaleur va durer, mais il faudra compter dès lundi prochain entre 30 et 35 degrés au nord, jusqu'à 40 dans le sud-ouest et dans le grand est. De quoi aggraver la sécheresse déjà critique. Ça grimpe encore ce matin. 67 départements concernés par les restrictions d'eau. Et la chaleur ne va pas arranger non plus la situation en Bretagne, touchée par la marée verte. Des algues dont la décomposition peut dégager du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique potentiellement mortel. 6 plages ont été fermées et il y a, selon les associations depuis ce week-end, 2 victimes suspectes. Un mort à Morlaix, un autre à Douarnenez. Les algues vertes, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle, depuis la mort de ce jogger dans les Côtes d'Armor en 2016. Pas de lien formel avec les algues, selon l'autopsie, mais pour l'avocat de la famille, pas de doute possible. Il vient de saisir le tribunal pour demander réparation. Maître François Laforgue.
Le jogger était en pleine forme, il n'avait aucune pathologie préexistante. Il était non fumeur, pas d'alcool bien évidemment, c'était un sportif de haut niveau. Il avait l'habitude de faire des préparations pour des trails, donc il était en pleine forme. Par ailleurs, à l'endroit où il est décédé, bien, il y avait de l'hydrogène sulfuré dans des proportions importantes. Il y a des analyses qui ont été faites qui l'ont permis de le démontrer. Et ensuite, nous apprenons aujourd'hui que des pompiers qui sont intervenus sur place ont eu des malaises dans les heures qui ont suivi leur intervention pour sortir le corps de la vasière. Donc pour toutes ces raisons et bien d'autres, eh bien, il y a des présomptions graves, précises et concordantes qui nous permettent de dire qu'il est bien décédé des algues vertes en putréfaction ce jour-là.
Maître François Laforgue avec Céline Guettaz de France Bleu Armorique. Des associations mises en demeure, Téléperformance, leader mondial des centres d'appel, l'un des plus grands employeurs français, 300 000 salariés dans le monde, elle lui demande d'établir un plan de vigilance pour prévenir des atteintes graves aux droits des travailleurs dans ses call centers en Colombie, au Mexique ou aux Philippines. Défendre ainsi les droits des travailleurs d'une multinationale française à l'étranger, c'est une première. En bref, encore l'ancien PDG de Renault et Nissan, Carlos Ghosn, toujours assigné à résidence à Tokyo, contre-attaque. Il lance des poursuites contre Nissan et Mitsubishi. Carlos Ghosn reproche aux deux constructeurs japonais la rupture abusive de son contrat de travail. Il réclamerait jusqu'à 15 millions d'euros.
8h12 aux États-Unis, Kevin Spacey ne sera pas poursuivi pour attentat à la pudeur et agression sexuelle.
Décision hier du procureur du Massachusetts. Le jeune homme qui accusait l'acteur américain avait finalement refusé de parler à l'audience et il avait déjà abandonné les poursuites aux civils. Récit à New York avec Loïc Loury.
Les faits se seraient déroulés en juillet 2016 sur l'île de Nantucket au large du Massachusetts. Kevin Spacey aurait posé la main sur le sexe d'un jeune homme de 18 ans employé d'un bar après l'avoir fait boire. L'inculpation arrivera 2 ans et demi plus tard dans le sillage du mouvement MeToo et alors que les accusations contre lui se multiplient. Mais le dossier aujourd'hui s'écroule, la faute à un téléphone, celui du jeune homme utilisé pour filmer les faits puis les commenter avec ses amis. La police en a bien extrait les données mais la défense souhaite bien sûr y jeter un œil, sauf que le dit téléphone a disparu selon la famille. Interrogé pour savoir ce qu'il en avait fait, le jeune homme assure n'avoir rien effacé. Il a pourtant invoqué ensuite le 5e amendement qui permet à un témoin de garder le silence. Sans cette pièce à conviction, le procureur a dû se résigner et abandonner les charges. Mais tout n'est pas terminé pour l'acteur, objet de plusieurs enquêtes aux États-Unis et en Angleterre. New York, Loïc Loury, France Inter.
Allez, c'est aujourd'hui que les choses sérieuses commencent. Qui va tutoyer les sommets? Le Tour de France entre en montagne. 209 km entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées. Le maillot jaune toujours sur les épaules du Français Alaphilippe. Pour l'instant, Fanny Lechevestrier.
Dire que le Tour de France commence aujourd'hui serait faire injure à tout ce qui s'est passé durant 10 jours, mais comme le résume Warren Barguil, place désormais au plat de résistance, là où aucun favori, Geraint Thomas et Egan Bernal en tête, ne pourra rester caché au sein du peloton.
Là maintenant, on s'attaque au plus gros du gâteau.
3 étapes de montagne et un contre-la-montre individuel au milieu de tout cela vont permettre d'y voir un peu plus clair. Ce matin, ils sont encore 25 coureurs à se tenir en moins de 6 minutes. Thierry Gouvenou, qui a tracé le parcours, promet du suspense.
Il va y avoir un coup de bouleversement parce que cette fatigue qui s'est accumulé déjà depuis 10 jours va vraiment se pointer sur les coureurs et il y aura vraiment des occasions de faire des écarts.
Avec en point de mire samedi le Tourmalet et un Thibaut Pinot revanchard, prévient son coéquipier Rudy Mollard.
C'est vraiment un tueur et avec ce qui s'est passé, il était déjà fort mais on va le revoir encore plus fort. Vu son tempérament, il va pas laisser ça comme ça.
Mais la montagne, c'est aussi le début de la galère pour tous les non-grimpeurs.
Je joue à la montagne, que je dors mal. Ça veut dire la veille, calculer les délais. Voilà, ça va être de la souffrance.
Comme beaucoup d'autres, durant les prochains jours, William Bonnet verra surtout l'arrière-train des favoris à tenter d'attraper le dernier groupe de coureurs pour rallier la ligne d'arrivée dans les délais. À Toulouse, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Le sport encore et le foot. En attendant le grand soir demain, le choc Algérie-Sénégal. Hier, c'était ce qu'on appelle la petite finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le Nigeria qui termine sur le podium 1-0 face à la Tunisie. Enfin, connaissez-vous la zone 51 ?
Non.
Une base longtemps restée...
Anthony Bélanger y connaît.
Mais, tant pis, je vais quand même raconter. Une base longtemps restée secrète dans le désert du Nevada aux États-Unis, un endroit entouré de mystères, sauf pour Anthony Bélanger, donc, alimenté par le mythe des extraterrestres. Et depuis quelques jours, la toile s'excite. Événement Facebook, prenons d'assaut la zone 51. Plus d'1 million de personnes prévoient d'y d'y débarquer le 20 septembre prochain. Capucine Jaffé a mené l'enquête.
Avoir un tête-à-tête avec un alien, c'est le fantasme du youtubeur français Adam le Rigolo, qui dans sa dernière vidéo a annoncé se rendre sur la zone 51.
Dans un premier temps, quand je serai sur place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo, histoire de montrer un petit peu comment se présente la zone 51 à mes abonnés, et par la même occasion, voir si en effet, il y aurait une vie extraterrestre ou pas là-bas. C'est pas que je crois au mythe de la zone 51, mais disons que j'aimerais bien y croire en fait, c'est plus ça.
Qu'il soit influencé par la pop culture ou les théories conspirationnistes, les participants de l'événement Facebook semblent très motivés. Nick Pope a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense.
Cet événement Facebook a commencé comme une blague, mais il semblerait que cela devienne réel et je l'ai constaté en regardant les discussions sur Internet. Beaucoup de personnes prévoient d'y aller. Bien sûr, pas un million de personnes, mais peut-être des milliers.
Alors que les internautes s'amusent à mettre en place des stratagèmes pour accéder au site, la zone 51 reste l'un des endroits les plus surveillés du monde.
En attendant, histoire de démythifier cette zone 51, la CIA vient de publier des documents, histoire de bien tuer le mystère. Ce serait en fait une base de test pour des programmes de surveillance militaire, quand on vous dit que la vie est ailleurs. En tout cas, Frédéric Mettezo, la vie sur France Inter, elle est très très belle.
Mais oui, la vie est belle, c'est le jour des audiences radio, Hélène. Et France Inter demeure la première radio de France. Vous êtes près de 6 300 000 auditeurs chaque jour branchés sur France Inter. Première radio de France, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous en remercie. Cette matinale demeure également la première matinale de France. On pense donc à Nicolas Demorand et Léa Salamé. Le journal de 8 heures que vous présentez cet été, Hélène, est aussi le plus écouté. Donc là, on embrasse Florence Paracuelos. Et puis, c'est une année historique, un record pour l'ensemble de l'antenne de France Inter. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les journalistes de la rédaction. Merci à toutes les équipes qui permettent de faire cette belle radio. Les assistants d'édition, les techniciens, les réalisateurs, les agents administratifs, les attachés de production. On vous embrasse